Bonjour, on est sur Radio Progrès avec le docteur Christophe Oberlin pour une interview qui va porter notamment sur son livre Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale et sur son témoignage en tant que médecin qui est allé plus de 50 fois en mission en Palestine. Donc bonjour docteur, merci d'être avec nous.
Bonjour Alice et bonjour à la Radio Progrès, c'est ça?
Exactement.
Bravo.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et merci aussi d'avoir écrit ce livre très intéressant, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Et donc j'invite nos auditeurs à le lire. On va commencer, si vous voulez bien, par vous demander, quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous intéresser à la Palestine? Qu'est-ce qui vous a fait connaître la Palestine?
Ah, moi j'appartiens à une génération qui fait partie des gens qui ont été trompés, si vous voulez. Il faut se replacer, vous voyez, dans les années 60, 65, 70, vous voyez. J'étais dans un milieu très très bourgeois où l'on ne parlait pas de politique. Donc la politique, je l'ai appris très tardivement, avec beaucoup de retard. Et en ce qui concerne la question israélo-palestinienne, eh bien, il y avait une véritable chape de plomb sur l'histoire de cette région du monde. Et donc j'ai vécu de plein fouet, si vous voulez, cette espèce d'image idéalisée de ce petit pays, Israël, qui faisait fleurir le désert. Véritablement, je peux témoigner de la manière dont j'étais intoxiqué par cette idée. Et je dois dire qu'avec beaucoup de honte, en 1967, quand Israël a envahi la Cisjordanie, Gaza, dont je ne connaissais pas l'existence, mais a envahi Jérusalem, a conquis Jérusalem, je me suis dit, regardez de l'époque, les journaux, les images, par exemple dans Paris Match, qui décrivaient cette conquête comme une victoire extraordinaire de l'intelligence sur la barbarie et l'arriération, si vous voulez. Ça, c'était véritablement le tableau que l'on avait. Et c'est donc très progressivement que j'ai découvert, notamment à travers des documents, j'ai fait partie de ceux auxquels on racontait que les Arabes, entre guillemets, étaient partis volontairement. Vous voyez, c'était vraiment ce qui était seriné. Et ça vaudrait le coup de faire un document, d'ailleurs, sur cette arnaque dont on a été l'objet. Et puis, un beau jour, je suis tombé sur des photos où je voyais des Palestiniens manifestement très pauvres, faisant rouler des charrettes en bois avec des matelas empilés et des gens derrière qui les tenaient, des civils, enfin des gens habillés en civils, qui les tenaient sous la menace de leurs canons. Et là, ça a été pour moi un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on nous raconte, cette histoire de départ volontaire? Et là, assez vite, évidemment, l'information m'est venue. Et je me suis rendu compte que j'avais été victime d'une énorme arnaque, comme tous les jeunes de ma génération. Alors aujourd'hui, ça peut paraître surprenant, parce que personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe sur le bout de la planète. Il faut vraiment se replonger dans cette époque. Alors, à partir de là, si vous voulez, je me suis fait ma propre opinion. J'étais dans un milieu qui n'était pas très favorable à la discussion, à l'explication. J'ai donc appris un petit peu tout seul, jusqu'à être convaincu qu'il y avait une population palestinienne et que véritablement elle était l'objet d'un véritable scandale historique, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça que c'est venu.
D'accord. Et c'est suite à ce déclic que vous avez eu que... vous avez accepté, vous avez postulé pour partir en mission en Palestine.
C'est venu beaucoup plus tard, parce que j'ai fait ma médecine avec l'idée que la médecine était universelle J'ai toujours été attiré par l'étranger, par l'autre. Quand j'étais petit, vous savez, c'était une époque où il n'y avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui. On avait des cadeaux le jour de Noël, pour son anniversaire, point, c'est à peu près tout. Eh bien, moi, je demandais des cartes du monde, des cartes d'Afrique, des cartes de l'Asie. J'étais passionné par ce qui devait se passer à le bout de l'eau de la planète et que je ne connaissais pas. Donc, je passais mon temps, des heures. J'avais une énorme carte du monde dans ma chambre quand j'étais petit. Et je passais des heures à la scruter, à lire les noms des petites villes ou des grandes villes, des villages que personne ne connaît. Donc, j'ai été attiré par le voyage. Et dès que j'ai pu, j'ai beaucoup voyagé. Aujourd'hui, c'est tout à fait banal, mais par exemple, dès qu'on a son permis de conduire pour l'Inde avec une vieille bagnole, à l'époque, c'est assez triste à dire, c'était possible. Maintenant, aujourd'hui, avec toutes les guerres, et notamment toutes les guerres à l'américaine, le monde est coupé partout, les frontières, les barrages, tout ça est complètement empêché, des pays entiers ont été détruits, mais on pouvait aller de Paris à Kaboul ou en Inde en deux chevaux à l'époque, vous voyez. Et ça a été le début de toute une série de grandes aventures qui se sont poursuivies après, beaucoup plus tard, quand j'ai eu acquis une formation professionnelle par un départ pour la Palestine.
D'accord, vous étiez parti avec Médecins Sans Frontières.
Alors non, pas du tout. La première fois, c'était quoi? Au début, c'était si j'ai été attiré par, j'ai été pour partir. Il y a, si vous arrivez avec un budget, vous arrivez dans n'importe quelle ONG avec un budget, c'est-à-dire payer soit des billets d'avion et un peu d'hôtel. Oui, c'est ça, les budgets, c'est pas grand-chose par rapport à ce que payent les ONG. Mais si vous arrivez avec votre budget, n'importe quel ONG dit banco, avec aussi la condition d'avoir un projet, les gens qui le reçoivent et une formation pour le faire. J'ai soigné un journaliste de Paris Match qui avait été l'objet d'une très grave blessure par des tirs israéliens. Et c'est lui qui, si je me souviens bien, est arrivé avec un fonds de la fondation Hachette, qui m'a permis de partir, de faire un certain nombre de voyages. Et puis après, il y a eu d'autres fonds qui sont venus. Aujourd'hui, je le dis avec un peu d'ironie, la fondation Bettencourt a donné aussi un petit peu d'argent, même pas mal d'ailleurs pour l'époque. Mais c'est pas moi qui l'ai sollicité, c'est l'ONG avec lequel je travaillais, qui s'appelait, il y a eu Aide Médicale Internationale, il y a eu Médecins du Monde, si je me souviens bien. Il y a eu la mairie de Paris aussi, je me souviens que Bertrand Delanoë avait fait un don pour des missions chirurgicales en Palestine, j'ai pu en bénéficier, et puis tout ça, ça a fonctionné. Il y a eu le consulat de France aussi, c'est-à-dire le gouvernement français, qui a mis au courant de ce que nous faisions, s'est dit oh, « ben, ça c'est un travail intéressant », donc ils nous ont financé pendant assez longtemps, et puis est arrivé 2006. 2006, vous vous en souvenez, c'est la date de l'élection du Hamas qui a gagné les élections palestiniennes à Gaza, et en Cisjordanie, et donc avec un parlement majoritaire, une majorité de députés. Et ça a été instantanément, le fonds du gouvernement français, du consulat, a été bloqué. La Palestine n'est plus une priorité, on dit à ce moment-là. Et comme je travaillais déjà, vous voyez, j'ai commencé en 2001, et c'était en 2006, vous voyez, donc ça faisait presque plus de 6 ans que je travaillais régulièrement, 3 fois par an, donc j'étais connu là-bas, et il y avait une ONG américano-palestinienne qui s'appelle PCRF, Palestine Children's Relief Fund, le fonds d'aide pour les enfants de Palestine, qui instantanément, il m'avait déjà sollicité plusieurs fois en disant « on voudrait que vous travailliez avec nous, si vous avez le moins de soucis, on prend ». Parce que on travaillait de la manière dont cette ONG qui avait une éthique le souhaitait, c'est-à-dire avec les Palestiniens, dans les milieux palestiniens, on allait opérer dans des salles d'opération palestiniennes avec des anesthésistes palestiniens, et donc ça n'était pas un espèce de transfert de technologie un hôpital sous tente ou un truc, un hôpital gonflable, comme il y en a eu, où tout le monde arrive avec son matériel. Non, c'est pas ça. Et on a travaillé jusqu'à présent 100% avec le personnel palestinien.
Et donc, vous avez accepté ensuite des missions avec le BCRF ?
Oui, c'est ça, oui.
Et vous avez continué à y aller régulièrement ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés
Des difficultés avec Israël, on en a toujours, puisqu'on a assisté à la fermeture progressive, à l'aggravation du siège, qui ne date pas seulement d'ailleurs de la prise de pouvoir du Hamas en 2007, après une période de quasi-guerre civile entre les élections gagnées et la prise de pouvoir. Même avant, Israël a toujours considéré que Gaza lui appartenait, et dès 2001, la première fois, en décembre 2001, bien tout ce qui entrait et sortait de Gaza était entièrement contrôlé par les Israéliens. Alors ça se faisait un petit peu à la bonne franquette. Je me souviens, mon premier voyage, j'étais parti notamment avec François Maspero, l'écrivain, et on lui demandait à l'entrée de Gaza, trouvez-le, il mettait un bouquin sur la table, alors on... Voilà, c'était relativement... cool, si j'ose dire. C'était un siège, mais c'était pas un siège avec une extrême violence. Et puis 2006, ça s'est aggravé. Après, il y a eu des permis. L'armée israélienne a pris possession de tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le COGAT, c'est-à-dire un service de l'armée israélienne, qui décide de tout ce qui entre et sort de la bande de Gaza, y compris d'ailleurs en ce moment. Bien entendu, on a eu énormément de soucis, on a été bloqué parfois plusieurs tours, j'ai des parties de mon équipe qui ont été empêchées d'entrer. Il se trouve que moi, j'ai toujours réussi à entrer, mais parfois, en attendant 2, 3, 4 jours sur le parking de l'ARS à l'entrée, avant d'avoir l'autorisation. Alors tout s'est arrangé, mais pendant une période malheureusement très courte, c'est-à-dire quand la démocratie est arrivée en Égypte, avec le départ de Hosni Moubarak, on a pu passer par l'Égypte. Et là, c'était des conditions beaucoup plus normales. Au départ, on passait par les tunnels, mais on demandait aux Palestiniens des visas. On était accueillis à l'intérieur de la bande de Gaza, à la sortie des tunnels par les policiers palestiniens. Tout ça se faisait en respectant, disons, une certaine souveraineté des Palestiniens à l'intérieur de leur territoire assiégé. Et puis après, ça s'est pas assoupli encore un petit peu. Et puis malheureusement, on a vu arriver le coup d'État de Sisi, où la décision de Sisi il l'a tenue, c'est-à-dire que il a décidé du jour au lendemain que bien plus rien, personne ne passerait avant la chute du Hamas. C'est-à-dire que la chute du Hamas était inscrite officielle. J'étais à Gaza au moment du coup d'État, nous sommes entrés par l'Égypte. Et la et la porte égyptienne s'est refermée pendant que nous étions là-bas, et nous avons appris là-bas que désormais plus personne ne passerait avant la chute du Hamas. Donc ça nous a donné l'occasion d'un épisode un petit peu difficile, en ce sens que l'on ne pouvait pas sortir du côté israélien qui était trop content, de dire, écoutez, vous n'êtes pas passé par Israël, vous ne ressortez pas par Israël, débrouillez-vous. On a l'habitude, si vous voulez, de ce genre de réaction israélienne. Et donc, nous avons décidé, avec mes camarades, de sortir par l'Égypte, dans une certaine mesure, sous la protection des services de renseignement palestiniens, qui nous l'ont déconseillé, nous ont dit, nous l'ont déconseillé, mais à partir du moment où on a décidé de le faire, ils ont dit OK. Donc ils nous ont permis de sortir par des tunnels, un peu spéciaux, puisque c'était des tunnels d'approvisionnement qui étaient très longs.
Parce que vous avez pu rentrer par le passage de Rafah, mais vous ne pouviez pas ressortir.
Exactement.
Vous ne pouviez pas être évacué. D'accord.
Voilà, donc on savait que de toute façon, le gouvernement français nous l'avait dit plusieurs fois, quand vous êtes à Gaza, si vous avez quoi que ce soit, on ne peut rien faire pour vous. Ça y a fait un aveu d'impuissance diplomatique qui persiste d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc ça peut faire partie des données. Mais donc, on a décidé de sortir. Et donc, on est sorti dans des tunnels beaucoup plus longs que ceux qu'on avait l'habitude de prendre par le passé. qui sont des tunnels pour le transport de matériel, qui sont des boyaux de une soixantaine de centimètres de diamètre, où j'ai couché sur des bacs en espèce de plastique rigide, vous voyez, qui sont tirés par des câbles et tous
comme
les 200 mètres.
Voilà, des
luges très longues qui font 3-4 mètres de long. Et donc, ils ont l'habitude de faire passer à peu près tout le matériel qu'ils voulaient. Et puis tous les 200 mètres, il fait dans le noir. Tous les 200 mètres, il fallait changer de, parce qu'on ne peut pas avoir un câble de 1 ou 2 kilomètres de long. Vous voyez, c'est pas possible. Donc, c'est des câbles d'à peu près 200 mètres. Elles sont là, on descendait de nos barquettes pour monter dans une autre avec un tunnelier qui était là, qui nous aidait à faire le transbordement. Et puis, on s'est retrouvés comme ça, dans la ville de Rafah, sortant dans une maison, alors qu'il y avait un coup d'État et l'armée égyptienne partout. Donc, ça a été un petit peu l'aventure. Mais on a eu beaucoup de chance parce que, à la tête du client, si vous voulez, on a réussi à trouver un chauffeur de taxi qui était quelqu'un d'honnête, qui a parfaitement compris ce dont il s'agissait, et qui nous a fait faire toute la traversée du Sinaï en évitant l'armée qui s'était déployée sur les routes principales. Ils allaient de village en demandant où est l'armée, et on avait des agents indiqués, elle est là-bas, faut passer par-ci, dans ça. Il a réussi à nous emmener comme ça jusqu'au Caire.
Et donc, vous parliez du contrôle drastique des personnes qui souhaitent entrer à Gaza, mais aussi du matériel, notamment le matériel médical. C'était ça le but du contrôle.
Alors, les buts, vous savez, les buts israéliens, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait, ne les connaît. Hein. Il y a toujours une énorme incohérence entre ce qui est décidé et les buts que l'on essaye d'imaginer. En tout cas, le point généraliste, si vous voulez, c'est harceler les gens qui viennent, essayer de les dégoûter, et surtout qu'ils ne reviennent pas, vous voyez. Donc, des vexations, des fouilles, parfois dégradantes même, vous voyez. Donc c'est ça le système israélien. Donc ça nous a permis de l'observer et de voir toute cette masse de la jeunesse, garçons et filles, qui lors de leur service militaire, auxquels on confie toutes ces tâches, qui on ne pouvait pas s'en empêcher de penser, qui sont tellement dégradantes les tâches elles-mêmes, qu'on ne pouvait pas imaginer que ça ne laisse pas des traces dans l'esprit de tous ces jeunes gens, vous voyez, qui ont 18 ans, 20 ans, qui ont leur téléphone portable, qui font semblant de rigoler, mais qui, en réalité, dès lors qu'ils sont face à des gens qui ont l'âge de leurs parents ou de leurs grands-parents, ne peuvent pas sans doute s'empêcher de penser qu'ils ont un rôle tout à fait dégradant pour eux-mêmes. Et donc, ça se passe sur tout ça, puisqu'évidemment, ce n'est qu'un millième de ce que subissent les Palestiniens, de ce qu'ils ont subi, mais on voit bien la mentalité dans laquelle sont élevés tous ces jeunes. Les interrogatoires, par exemple, c'était vraiment pitoyable. Pourquoi vous allez à Gaza? Pourquoi vous n'allez spécialement à Gaza, sous-entendu, c'est parce que vous êtes antisémite, que vous allez uniquement là-bas. Ah ben non, on va pas uniquement là-bas. Je suis allé une cinquantaine de fois en Algérie pour repérer, pour enseigner, dans une série d'autres pays du monde. Donc c'est une façon de faire connaissance avec cette jeunesse, et on en voit le résultat aujourd'hui avec une opinion générale qui, à ce que l'on sait, mais on n'en sait pas grand-chose parce qu'il y a tellement de censure, aussi bien au niveau israélien qu'au niveau français. D'ailleurs, on sait très mal ce qui se passe réellement dans l'opinion. Les sondages n'ont pas plus de valeur là-bas qu'ici. Mais en tout cas, il y a très certainement une opinion juive israélienne qui a basculé progressivement vers l'horreur, c'est-à-dire l'idée que la vie d'un Palestinien ne vaut pas la vie d'un Israélien. Et que finalement des grands massacres sont justifiés au nom d'idéologie, c'est le racisme absolu, quoi.
Oui, on peut bien constater cette déshumanisation des Palestiniens dans les propos de beaucoup de représentants politiques israéliens.
À tous les niveaux, oui.
Et aussi dans les médias occidentaux, malheureusement. Et est-ce que, justement, c'est ça qui vous a amené à avoir envie d'écrire ce livre que vous avez écrit ?
Ben, envie d'écrire, c'est venu plus rapidement parce que dès mon premier voyage en 2001, quelques jours plus tard, coup de fil, écoutez, il y a une réunion sur la Palestine, est-ce que vous vouliez venir en parler ? Alors, je me saute au plafond parce qu'évidemment, je ne connaissais rien, j'étais allé une seule fois... et je n'ai même pas vu la mer, donc je ne savais rien. Et puis j'ai accepté de venir, on s'est posé la question d'ailleurs avec mon anesthésiste Christophe Denant, si on nous demande de venir témoigner, est-ce qu'on accepte ? Et on s'est dit oui, parce que on a vu très vite le décalage qu'il y avait entre ce que nous voyons sur place, vous voyez, en y allant tous les 4 mois, vous voyez, ça fait des espèces de rappels de vaccination très réguliers, on se construit quelque chose, et on s'est aperçu très vite qu'il y avait un énorme décalage avec entre le terrain et ce qu'on en disait ici. Donc on a pris le parti d'y aller, on s'est évidemment posé la question, mais si on commence à témoigner, on risque de ne plus pouvoir entrer, et ça a été assez vrai, mais curieusement pas d'où on pensait que le coup allait venir, c'est-à-dire qu'on a toujours pratiquement réussi à entrer avec Christophe Denant, bon, il y a eu des épisodes entiers où tous ceux qui nous accompagnaient, qui avaient des noms arabes, étaient refusés. Mais en tout cas, en ce qui concerne Christophe Denant et moi, ça a toujours été possible. Par contre, le fait de témoigner, eh bien, à chaque fois j'ai été exclu de deux, nous avons été exclus de deux ONG successives parce que nous témoignons. Et c'est donc Médecins du Monde dans un premier temps. Qui a décidé de nous virer, alors que nous venions d'ailleurs avec nos financements, et non. Et puis Aide Médicale Internationale, parce que bah, les ONG, c'est aussi ça, si vous voulez. Les ONG, c'est des querelles de pouvoir, une envie de se faire connaître, puisque finalement c'est ça qui permet le financement de ces ONG. La médiatisation, c'est pour eux. Je ne peux pas dire qu'on était très médiatisés, mais en tout cas, on a témoigné et on continue de le faire. En fonction de la direction de telle ou telle ONG, ce n'est pas accepté. Donc, on a été exclus de ces deux organisations. Médecins sans frontières, on n'a pas eu l'occasion de travailler avec eux. Et puis, on a été recueillis par, après avoir été recueillis par le consulat de France, on a été recueillis par cette association américaine qui, elle, a tout de suite accepté que nous témoignions, que nous écrivions des bouquins, que nous faisions des conférences à une seule condition, et c'était en réalité la plus professionnelle des ONG, puisque sur place, c'est une ONG très puissante avec des fonds importants, et beaucoup de personnel de palestinien, bien entendu, qui contrôle le travail qui est fait, c'est-à-dire que les dossiers médicaux, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus de consultation, il y avait en permanence en consultation et au bloc opératoire du personnel de cette ONG qui était là pour nous aider et qui en même temps, évidemment, contribuait à informer l'ONG du travail qui était fait. On nous a très souvent sollicité pour savoir quels étaient nos besoins, les besoins dans d'autres spécialités, quel type de chirurgien recruter, vers quel pays emmener certains enfants dont les soins ne pouvaient pas être assurés sur place. Donc c'est une très très bonne ONG, très très professionnelle, mais qui en même temps nous a laissé liberté complète sur le plan de l'expression. Donc ça m'a permis très rapidement de commencer à écrire des articles et puis après une dizaine de bouquins sur des sujets différents.
D'accord, c'est bien. Comme vous abordez la question des besoins en matériel médical, je reviens justement sur la question du blocus. Notamment, on l'a vu depuis le 7 octobre dans les témoignages de médecins, qui a un blocage de matériel médical. Quand des médecins viennent en mission et amènent avec eux leur propre matériel, il est bloqué et interdit d'entrer à Gaza. Est-ce que vous aviez déjà été témoin de ça, du matériel médical qui était empêché d'entrer ?
Bien sûr, bien sûr. Alors nous, Moi, ma spécialité, c'est la chirurgie réparatrice des membres, les séquelles de gros traumatismes des membres. La première fois qu'on avait été là-bas, d'ailleurs, on était accueillis par le ministre de la Santé d'époque, Riyad El-Tamoun, qui nous avait fait un PowerPoint. À l'époque, c'était assez moderne. Aujourd'hui, c'est évidemment très classique, mais un PowerPoint des 35 000 blessés. Je me souviens du chiffre du début de la deuxième intifada. Et il y avait 40% de lésions au niveau des membres, avec notamment des séquelles, puisque les gens qui ont des lésions au niveau des membres, la plupart du temps survivent, heureusement, mais avec des séquelles, des fractures non consolidées, des infections cutanées, des nerfs coupés, toute une série de choses. Donc toute cette chirurgie complexe de réparation secondaire, c'est la chirurgie qu'on fait. Mais c'est une chirurgie qui ne nécessite pas, je ne vais pas entrer dans les détails, et de moyens techniques extraordinaires. Hein, les réparations des nerfs, c'est au profit de microchirurgie et de patience, vous voyez. Et puis c'est surtout une formation aux réparations multiples, tissulaires, vasculaires, osseuses. Enfin, il faut avoir un gros background de chirurgie réparatrice pour faire ça, mais nécessite pas de gros moyens. Alors, parfois, on a apporté du matériel, il a pu passer, parfois, il a été bloqué, mais par contre, on a assisté, je me souviens encore, d'une équipe de chirurgie cardiaque, où il y avait 18 personnes, et où tout le matériel a été stoppé, bloqué, donc l'équipe n'a pas pu travailler, donc 18 personnes, et tout le matériel envoyé à Jérusalem pour contrôle, soi-disant envoyé, voilà. On peut toujours arguer d'expliquer qu'ils allaient introduire du matériel de guerre et tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, on a vu ce contrôle sur le matériel devenir progressivement de plus en plus lourd, de plus en plus harcelant, et ce qui fait que dans les dernières années, d'ailleurs, on partait les mains dans les poches, en travaillant uniquement avec le matériel que les Palestiniens avaient réussi à introduire, avec deux sources qui fonctionnaient bien. La première, c'était la dotation, c'est-à-dire que même avec la séparation Gaza administrative, Gaza Cisjordanie, eh bien, la pharmacie des hôpitaux de Ramallah, eh bien, envoyait des dotations qui allaient vers Gaza. Avec des dotations assez importantes, d'ailleurs, puisqu'il y a quasiment pas très peu de médecine privée à Gaza, donc il y avait plus de dotations publiques vers Gaza que vers la Cisjordanie. Et puis, il y avait ces fameux tunnels, et les tunnels, jusqu'à une date récente, eh bien, ils fonctionnaient encore. Même sous Sisi, il y avait encore des possibilités. C'était des tunnels qui étaient illégaux, entre guillemets, mais beaucoup n'étaient pas connus, certains étaient connus mais tolérés. Enfin, il y a eu une aggravation. À partir du moment où Moubarak est parti, il y a eu la grande époque des tunnels, et puis ça s'est restreint, mais en gros, si vous voulez, quand on avait besoin d'un matériel en semi-urgence, en 48 heures, en le commandant au Caire, on pouvait l'avoir à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a eu une époque où il y avait, me dit-on, mais je le crois volontiers parce que j'ai de jeter un œil, près des tunnels entre Gaza et l'Égypte. Et énormément d'entreprises ont créé leurs tunnels avec des tunnels qui étaient parfaitement authentifiés du côté de Rafah, les inscriptions à la mairie, le personnel, les assurances, le salaire était déclaré. Et ça permettait aussi, à travers les taxes levées sur les produits introduits par les tunnels, eh bien de payer en gros la totalité des fonctionnaires de la bande de Gaza. Et donc cette économie des tunnels qu'on a encore qualifiée de contrebande dans les grands journaux français, eh bien ça n'avait rien d'une contrebande, c'était tout à fait officiel, déclaré, et ça a permis à cette bande de Gaza de survivre pendant des années.
Et concernant le matériel médical qui était bloqué, du coup, c'était des confiscations, il n'était pas restitué après.
Alors si, il était restitué, mais le jour du départ de l'équipe chirurgicale, vous voyez, ou encore plus tard, vous voyez. Ça, je dois dire qu'il faudrait donner le prix Nobel de la patience aux Palestiniens en général, et en particulier dans cette ONG PCRF, aux responsables palestiniens, responsables de haut niveau, extrêmement fort, qui a enduré pour nous toutes ces années, tous ces refus, toutes ces absences d'autorisation, ces matériels. Et, c'est-à-dire que on avait l'impression que la partie israélienne, et puis le match est véritablement tombé le 7 octobre, et on avait l'impression que la partie israélienne voulait se donner un air d'honorabilité, c'est-à-dire permettre les choses, mais tout en les contrôlant, etc. En fait, il y avait une énorme part de harcèlement. Mais il y avait encore une certaine retenue, vous voyez, il y avait des bombardements, on en a vécu énormément, les attaques d'hélicoptères, de tanks, de tout ce que vous voulez, mais il y avait une certaine retenue. Depuis le 7 octobre, le monde entier l'a découvert, 50 ou 100 morts civils en une journée, c'est quelque chose qui est devenu habituel, et c'est là où vraiment le conflit a basculé.
Est-ce que vous pensez que justement ces efforts pour faire semblant justement d'être un peu de donner une bonne image, est-ce que vous pensez que c'était justement pour rendre acceptable, vous parliez des bombardements, de le rendre acceptable justement aux yeux des dirigeants occidentaux, des peuples occidentaux aussi, et notamment de la France, parce que vous parlez dans votre livre à la page 41, justement du feu vert de François Hollande, qui a été donné...
Oui, alors, si vous voulez, moi j'ai toujours beaucoup de mal, j'ai toujours beaucoup de mal à essayer d'imaginer l'explication israélienne, parce que dans l'histoire de ce pays, de ce petit pays, il y a beaucoup plus d'irrationnel, de fautes politiques et humaines que de stratégies. Vous voyez, il n'y a pas de... Et donc, si vous voulez, on ne sait jamais ce qui va se passer. Par contre, ce que l'on constate au long cours, c'est l'aggravation de la situation, l'aggravation de la perte morale, et l'éloignement de toutes les valeurs qui constituent l'humanité, si vous voulez. Ça, c'est il y a une dégradation constante. Alors, on peut penser que au moment où la politique sécuritaire avait un aspect un peu moins inhumain, c'était une façon de faire passer la pilule, entre guillemets, auprès des Juifs israéliens eux-mêmes, si vous voulez, auprès de la jeunesse juive israélienne. Ils avaient l'impression finalement de protéger leur pays tout en gardant des valeurs, et puis depuis pas mal de temps tout ça a commencé à s'effriter, voire à s'effondrer, avec le paroxysme auquel on assiste avec le génocide. C'est pour ça que l'étude de l'opinion juive israélienne, je dis bien juive israélien parce qu'on parle toujours des Israéliens, et il ne faut pas oublier qu'il y a 20% de Palestiniens à l'intérieur d'Israël, qui n'en pensent pas moins, qui sont là, qui souffrent relativement moins que les Palestiniens périphériques, si vous voulez, mais qui sont là. Ce sont des citoyens de deuxième zone, et ils n'ont pas beaucoup la possibilité de s'exprimer, c'est moins qu'on puisse dire, parce que finalement, la menace pour eux, c'est tout simplement la déportation. Il y a eu beaucoup de tentatives, et même des tentatives réussies en ce sens. C'est très difficile d'imaginer ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que si le projet d'un État israélien dans la région avait été véritablement réfléchi et avait voulu s'inscrire dans le long terme, eh bien, il aurait fallu faire ce que n'importe quelle personne fait lorsqu'il déménage. Il commence par aller voir les voisins, il se fait ami avec des personnes, il développe des relations, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut finir par être accepté. Là, très curieusement, dans l'histoire, dans cette brève histoire israélienne, le comportement a été tel que aucune acceptation possible n'a été rendue réaliste, si vous voulez. On est allé d'aggravation en aggravation. Vous savez, en ce moment, par exemple, je me rends compte, je suis en train de finir la traduction du livre de Yaya Sinoir, qui est un roman autobiographique, mais qui est une biographie, surtout, tous les événements grands et petits qu'il raconte, c'est-à-dire on trouve énormément de correspondances avec d'autres sources, et on se rend compte que finalement, toutes les exactions dont les Palestiniens ont été victimes, le harcèlement administratif, le harcèlement sécuritaire, les tortures dans les prisons qui sont décrites, vous voyez, un livre qui est sorti en 2004, mais qui raconte surtout les années 80 et 90, vous voyez, tout était là, les viols, la torture, affamer les populations, tout était là, mais à un degré moindre, si vous voulez. Et véritablement, quand on relit ces textes aujourd'hui, on ne peut que se rendre compte que la fin de cette emprise est inévitable, que cette entreprise est véritablement une entreprise coloniale qui n'a jamais masqué son caractère colonial et qui utilise tous les procédés, y compris l'extrême violence et la torture. Je n'ai jamais rencontré, par exemple, un ex-prisonnier palestinien qui n'ait pas été torturé. Ça n'existe pas. Même la personne qui est interrogée pour la faire collaborer, la forcer à collaborer, eh bien, on utilise la torture. La torture, alors avec tous les stades, je ne vais pas vous donner les détails, mais cette torture, elle a été légalisée, même, on appelle ça dans les lois israéliennes, pression physique modérée, c'est ce que ça veut dire, pression physique modérée. Et puis, quand on parlait de ça il y a encore quelques années, c'était un sujet difficile à aborder. La question de la torture, c'est aussi une question très difficile. Vous voyez, c'est un peu comme les violences faites aux femmes, vous voyez, c'est parole contre parole, parce que généralement on se débrouille pour qu'il n'y ait pas d'éléments visibles, qu'il n'y ait pas de choses visibles. Et puis maintenant, eh bien, avec depuis le 7 octobre, le monde entier est au courant des horreurs qui se passent dans les prisons israéliennes, mais qui ne sont pas nouvelles.
Comme vous parlez justement des personnes qui sont dans les geôles israéliennes, notamment Marwan Barghouti et aussi le docteur Oussam, docteur Oussam Aboussafia.
Aboussafia, bien sûr. Oui. Et puis il y a Adnan Elborj, qui était mon collègue chirurgien orthopédique à l'hôpital Shifa de Gaza, qui lui est mort sous la torture. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'accumulent et qui s'accumulent non seulement au vu et au su de tout le monde, mais également sous le travail très attentif des équipes palestiniennes médico-légales, parce que on nous montre toujours, on essaie toujours d'en soutenir l'idée d'un pays sous-développé, mais la Palestine est un pays développé, notamment sur le plan médical, très développé, et ça comprend la médecine médico-légale. Et j'ai été témoin, j'ai écrit dans mes deux petits livres sur le droit appliqué à Israël, publié en 2014, ça s'appelait le chemin de la Cour, chemin de la Cour pénale internationale. Et puis le deuxième que vous avez mentionné tout à l'heure, qui date de 2022, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Eh bien, j'ai décrit dans ces livres le développement, l'initiation et puis le développement de cette équipe palestinienne de recueil de preuves. Et à l'heure qu'il est, par exemple, Israël restitue des cadavres de prisonniers palestiniens qui sont morts dans les prisons israéliennes, et toute une série d'équipes professionnelles étudie avec tous les moyens de la science moderne médico-légale pour identifier ces personnes et éventuellement même caractériser des preuves de torture sur ces personnes. Donc tout ça, ce sont des dossiers qui sont en train d'être construits, et ces dossiers qui sont aboutis par le passé, par exemple pour les marches du retour, il y a eu près de 3000 dossiers qui ont été envoyés à la Cour pénale internationale et qui ont eu une importance déterminante dans la décision de la procureure Fatou Bensouda, après 5 ans d'enquête préliminaire, d'ouvrir une enquête approfondie. Lorsque nous avons publié nos premiers petits livres avec Gilles Levert, tout le monde nous disait « Mais vous rêvez, jamais Israël ne sera devant la Cour pénale internationale, jamais les dirigeants israéliens. » Et Gilles Devers, qui malheureusement a disparu et décédé l'année dernière, eh bien, m'expliquait toujours qu'un processus était enclenché qui n'allait pas s'arrêter. Et alors que personne ne pensait, tout le monde disait non, ça n'arrivera jamais, eh bien, quelques jours avant la disparition de Gilles Devers, il aura eu au moins la satisfaction, eh bien, de voir lancer les deux premiers mandats d'arrêt contre M. Netanyahu et M. Galland par la Cour, cette fois-ci, ça a dépassé le stade du procureur par la Cour pénale internationale. Et d'autres mandats d'arrêt sont en préparation et pourraient être issus très rapidement.
D'ailleurs, les autopsies, c'est lorsque les corps des Palestiniens qui étaient dans les geôles israéliennes sont restitués, parce qu'il y en a qui ne sont pas restitués, parce que ils doivent, entre guillemets, continuer à purger leur peine même après leur mort.
Oui, si vous voulez, toutes les horreurs dans les intentions, tout ça, ça fait partie, si vous voulez, de la politique israélienne, mais aujourd'hui, tout cela est compté, hein, tout cela accumule, et il y aura au cours de ce siècle un grand procès du génocide des Palestiniens, il y aura un grand procès, il est possible qu'il faille du temps, c'est même vraisemblable, parce que là, les moyens de la Cour pénale internationale sont extrêmement limités, on parle de sommes apparemment importantes, mais en réalité, il y a tellement de conflits sur la planète, les équipes, c'est quelques dizaines de personnes, le procureur, c'est une quarantaine de personnes, les juges, c'est 18 juges, vous voyez. Donc c'est extrêmement limité, sans possibilité d'enquête, c'est pour ça que lorsque localement, eh bien, les administrations sont capables, comme le fait l'administration de Gaza, de fournir des dossiers de très haute qualité médico-légale, c'est important, parce que c'est ça qui fait que les choses avancent.
D'ailleurs, les équipes médico-légales rapportent des prélèvements d'organes.
Oui, alors ça, en ce qui me concerne, je suis très prudent sur ces affirmations.
Justement, les équipes médico-légales palestiniennes rapportent des suspicions de prélèvements d'organes sur les Palestiniens dont les corps ont été restitués.
Écoutez, moi, je suis un scientifique, hein, et je pense à la aux preuves absolues qui sont nécessaires à apporter à une cour. Je sais comment ils travaillent actuellement, mais je ne suis pas ça à la minute près. Mais en tout cas, dès qu'il y a eu des allégations de prélèvement d'organes, j'ai posé la question à l'équipe palestinienne directement et je n'ai pas eu de réponse. Donc je ne peux pas affirmer ni oui ni non. Par contre, signe de torture, bien entendu.
Merci beaucoup pour votre réponse. Et donc, concernant justement les BSS, les violences sexistes et sexuelles, les agressions sexuelles dont sont victimes les Palestiniennes, et aussi les conditions de vie des femmes palestiniennes à Gaza, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît?
Écoutez, moi, il y a deux aspects dans votre question. Il y a ceux des hommes et des femmes qui sont emprisonnés dans les prisons palestiniennes. Et là, bien entendu, il y a des masses et des masses et des masses de témoignages qui pèseront. Et
la aussi, même manière... Au checkpoint aussi. Dans les checkpoints aussi, il y a des témoignages aussi d'agression.
Oui, c'est ça, voilà. Donc là, on est entré avec MeToo, par exemple, on est entré dans une nouvelle ère où le témoignage des victimes a plus de valeur. Parce que avant, c'était parole contre parole. Ah, vous avez été torturé, non, il n'a pas été torturé, voilà, point. Tandis que maintenant, on accorde beaucoup plus de valeur au témoignage des victimes et on peut penser que les Palestiniens vont bénéficier d'une certaine façon de cette nouvelle approche des violences invisibles ou des violences cachées, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. En ce qui concerne la situation des femmes dans la bande de Gaza, elle est évidemment dramatique, et en particulier, Gilles Devers avait fait un très gros travail de documentation, de recueil de documentation. À partir du moment où la Cour internationale de justice a décrété qu'il y avait un risque de génocide, eh bien, il y avait un délai pour que de nouvelles informations soient recueillies depuis la bande de Gaza et pour voir si eh bien Israël avait pris des dispositions pour eh bien réduire, voire stopper l'entreprise génocidaire. Cette entreprise génocidaire, elle est dirigée en partie, notamment sur les femmes, toute une série d'actions ont été entreprises contre les centres de fertilité, de lutte contre l'infertilité, les banques d'embryons ont été bombardées, parce qu'il y a à Gaza des banques d'embryons. Gaza, c'est de la haute, c'est de la médecine de niveau, c'est de la chirurgie cardiaque, de la neurochirurgie, etc. Donc on a vu de manière très claire, et Gilles avait fait un très bon rapport très précis sur la lutte contre la maternité. Alors il y a évidemment malheureusement les tirs des femmes se rendant pour accoucher à l'hôpital, mais aussi une véritable politique de lutte contre la maternité et la procréation. Alors à côté de ça, si vous voulez, et ça on me reproche parfois amicalement de le dire, mais c'est que quand vous avez détruit les hôpitaux, les routes, les infrastructures, l'eau, etc., qu'est-ce qui reste? Bien, il reste toujours une population à Gaza de gens hautement éduqués. Vous voyez, un médecin, un enseignant, un ingénieur qui est lâché en pleine brousse va mieux se débrouiller que quelqu'un qui n'a aucune formation. C'est-à-dire qu'il y a une adaptabilité de la population palestinienne qui fait qu'à tout moment, les meilleurs spécialistes, les meilleurs professionnels sont là à disposition et réussissent avec pas grand chose à faire redémarrer, Et moi, je le vois à travers mes amis, notamment médecins ou chirurgiens, la médecine et la chirurgie ne se sont jamais arrêtées à Gaza depuis 18 mois. Bien entendu, la quantité et la qualité de la prestation médicale n'a pas été à la hauteur des besoins. Mais dès qu'un groupe électrogène existe avec un peu de fuel, vous avez de l'électricité, on met une lampe et on commence à opérer. Il en est de même pour les soins apportés aux femmes pour les accouchements. Alors bien entendu, quand vous avez quelques couveuses, alors qu'il en faudrait quelques plusieurs centaines, eh bien le résultat est une augmentation très nette que l'on verra d'ailleurs sur les statistiques. C'est triste de parler de statistiques. Mais il faut savoir que l'excellente Organisation mondiale de la santé et l'excellente UNRWA, eh bien, depuis la création de l'UNRWA, c'est-à-dire depuis 48, eh bien, il y a tout un travail de recueil de données sanitaires très précis qui est fait. Tous les mois, vous avez des publications où vous voyez le nombre de diarrhées infantiles, le nombre d'accouchements, le nombre de fausses couches, le nombre d'échographies faites au cours d'une grossesse pour une femme à Gaza. Et vous voyez que tout ce système, eh bien, même s'il a été détruit matériellement, eh bien, il persiste dans le cerveau, dans ce qui fait la force, justement, de ces Palestiniens et ces Palestiniennes. Donc, les compétences sont là, et c'est tout ce qui reste quand tout a été bombardé. Eh bien, ce sont les hommes, les femmes, les enfants, avec ce haut niveau d'éducation, et cette volonté à chaque moment, eh bien, d'essayer de tirer le meilleur de ce qui reste, si vous voulez. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, je suis pessimiste, car je crains que l'Occident continue à vouloir absolument s'occuper de ce qui se passe à Gaza. En absence, Monsieur Macron aurait proposé une coopération pour élaborer une constitution palestinienne, mais je pense qu'il serait mieux de se poser la question de la constitution française, mais de laisser les Palestiniens s'occuper de ce genre de choses.
Respecter leur droit à l'autodétermination. Droit,
bien sûr. Et donc, si on les laissait tranquilles, je suis convaincu, puisque je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, des bâtiments reconstruits, j'ai vu des maisons reconstruites trois fois de suite, j'ai les reçu régulièrement chez des gens dont je ne m'étais pas aperçu que la maison avait été détruite, elle avait été reconstruite à l'identique dans la phase intermédiaire, si vous voulez. Donc, les capacités de reconstruction à Gaza sont énormes, à condition qu'on les laisse tranquilles. Lorsqu'un immeuble est détruit, eh bien, on confie le tas de décombres à une entreprise. Et donc, on le confie, et l'entreprise se paye sur la récupération des matériaux, vous voyez, donc ils ont l'habitude. Et dans un immeuble qui est détruit, 80% des matériaux, du fer, du béton, eh bien, est récupéré, concassé, on en fait toute une série de granulats, et finalement, il suffit de faire entrer quelques milliers de camions de ciment, et tout ça se reconstruit avec des Palestiniens qui sont chez eux, sur leur terrain, qui est identifié, et donc avec des capacités d'organisation. Vous savez, c'est relativement facile de faire le coupe-feu une fois, deux fois, trois fois. C'est beaucoup plus difficile de gérer 2 millions de personnes dans une pénurie et un harcèlement qui va en s'aggravant. Et moi, j'ai vu pendant ces 25 ans à Gaza s'adapter. J'ai vu les queues des familles entières qui venaient pleurer au ministère de la Santé pour évacuer un membre de la famille qui ne pouvait pas être soigné. Je pense en particulier au cancer, avec cette radiothérapie qui traîne à jamais laisser l'autorisation d'entrer, alors qu'il n'a strictement rien à faire, ce grand militaire, avec du matériel de radiothérapie de type médical. Eh bien, ils ont réussi à tenir pendant 20 ans sous siège, tout en apportant toujours un certain progrès, en apportant aussi des données médicales contrôlées, parce qu'on fait une bonne médecine quand on s'auto-examine, si vous voulez, avec des congrès médicaux, avec des statistiques, avec tout ce que fait une société avancée, les Palestiniens sont capables de le faire eux-mêmes. Et donc la seule chose dont ils ont besoin, c'est, passez-moi l'expression, c'est qu'on leur foute la paix.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup, docteur Oberlin. C'était très intéressant.
C'est moi.
Et donc on vous retrouve bientôt pour une autre interview sur votre autre livre, sur le Shiri Yassin, le fondateur du Hamas.
Ah oui, une personne qui est bien, bien, bien méconnue.
Eh bien, merci beaucoup, docteur. Et à très bientôt.
Bonsoir, Alice, et merci à tous.
Merci beaucoup. Au revoir.